tourne là. Et pourquoi pas faire le tour de la Terre? Il est quelle heure au Guatemala? J'ai jamais pris de fusée horaire, toujours suivi les mêmes schémas. Car là retourne, car là retourne, retourne là.
Direct en ce mercredi 27 janvier 2016. Et oui, on s'est fait un petit peu désirer presque tout le générique de Radio Vélo, la chanson ouais, Carla.
C'était pour profiter.
Carla de Manu Larouille. Bienvenue, Julien.
Bonsoir. Mais comment se parler d'âme?
Non, mais là, c'est
bon, bonsoir à toutes et à tous.
À chaque fois, on me montre que je ne suis pas.
Non, mais c'était pas galant.
Je suis pas galant, mais pourtant je le suis. Mélanie, je t'ouvrirai la porte pour sortir du studio. Bienvenue, Mélanie.
Bonsoir.
On te l'ouvre pas tout de suite, tu peux rester. On salue également Ebé. Tous nos auditeurs, bah oui, on n'a pas d'autres copains autour de la table aujourd'hui.
Ce soir, c'est effectif réduit, c'est quoi? C'est 35 heures ce soir, qu'est-ce qui se passe?
Hier, il y avait grève, bon, il y en a, ils ont tenu grève, ils ne sont pas venus, bon, il y en a qui sont au chauffeur de taxi, certes. Mais pas tout le monde. Dans Radio Vélo, en tout cas, on va parler ici avec les championnats du monde qui arrivent. Et bien pour ce week-end, on va avoir tout à l'heure Francis Mouret, le champion de France, au téléphone. On aura également Sébastien Decoq de CX Stat et de Labouré Magazine pour parler de cette épreuve et de ses favoris du côté de Husden Zolder. On parlera bien également d'un petit débat avec nos amis de Vélo Club du Net et Benjamin qui sur le forum a lancé une question et un petit débat. C'est simple, si vous étiez coureur ou même directeur sportif, où est-ce que vous auriez préféré commencer votre saison et pourquoi? Voilà, c'était ça le débat. Il y a déjà pas mal qui ont répondu. Benjamin nous en dira plus tout à l'heure. Et puis dans notre tour du monde des équipes régionales de Midi-Pyrénées, Mélanie, où est-ce que nous allons nous arrêter?
Alors aujourd'hui, on va à Montauban, au club de l'US Montauban.
Voilà. De l'extra sportif, beaucoup de papier, c'est ça?
Ouais, ben là, nous, on est en train de commander tout ce qui est médailles, maillots, enfin, on prépare toute la saison. Et on est aussi en train de finaliser le calendrier régional qui n'est toujours pas sorti. On va espérer qu'il arrive dans les prochains jours. Donc voilà, en fait, on prépare la saison 2016.
Bon, et bien en tout cas, ça va pas tarder avec les premières courses. Ça sera avec les plages vendéennes, avec les Sorbasques, et puis le Grand Prix de Montastruc dans un mois et un jour. C'est ça. On aura Gilles Girardot, bien évidemment, pour présenter cette épreuve. Vous réagissez sur le Twitter, le Facebook, radiovélo.fr, @radiovélo31. Bien évidemment, ça réagit déjà et nous sommes, à deux pas de présenter donc ce championnat du monde de cyclocross. On va pour cela appeler l'un des spécialistes. Mais Julien, toi aussi, tu es un spécialiste de cyclocross. Qu'est-ce qu'on peut attendre ce week-end? Certes, il y a des favoris, mais quand même, c'est qu'est-ce que ça représente pour toi un championnat du monde de cyclocross?
Un champion du monde, c'est la consécration, c'est l'aboutissement de toute la saison. Alors, il y a des coureurs qui sont très en forme depuis quelques temps, comme Mathieu Van Der Poel qui domine largement, et encore on a pu le voir ce week-end, son sujet. Après, voilà, il y a des coureurs qui sont en préparation, qui montent petit à petit en pression et en condition, qui seront prêts ce week-end, donc il faudra penser et compter sur eux. Je regarde un petit peu quelques stats un petit peu qui se profilent sur certains sites où on met à 75% la victoire de Mathieu Van Der Poel. C'est vrai que je vois difficilement quelqu'un d'autre le battre, même si après il faudra tenir compte bien sûr des conditions météo. Maintenant, vu le circuit qu'il y avait ce week-end, très très gras et physique, il s'est vraiment promené dès le premier tour. Voilà, on peut se dire, mais finalement, qui est-ce qui va pouvoir le battre? Ça devient compliqué. Wout Van Aert n'est pas forcément au top, ou il est encore pas dans le coup. Kevin Poels non plus est un petit peu en retrait aussi, même s'il se rapproche de Wout Van Aert. Voilà, après on compte sur nos Français, bien sûr, avec Venturini, avec Francis Mouret. C'est pas ça, ça va être très compliqué. Je sais que Francis qu'on essaie d'avoir mais qui nous répond pas, et apparemment depuis aujourd'hui je pense là-bas sur le site, c'est un site qu'il connaît très bien puisqu'il avait comme il le disait dans une interview, il avait participé à ces champions du monde en tant qu'espoir, et depuis ça fait quelques années qu'il côtoie ce parcours de Zolder. Voilà, il a comme objectif tous les coureurs qui prennent des parts à une course comme ça, ben c'est pour donner du mieux de même hein. Ils ont axé leur préparation sur cette sur ce championnat du monde, donc à la différence de la route, il y a beaucoup de conditions qui peuvent changer la donne. Hein. La météo, forcément, il peut très bien en une semaine faire froid, il peut neiger, avoir du verglas, etc. Et ça va changer la donne par rapport au podium, forcément. Ça peut être très très roulant, comme on a eu en début de saison hein, ici sur des parcours très très chauds. Voilà, faut falloir un petit peu attendre, un petit peu voir ce qui se passe. Mais sincèrement, je concernant la première place, je vois mal qui est-ce qui, même s'il y a des coureurs qui se rapprochent du podium. Je pense qu'on va plus avoir une bagarre pour la deuxième place et troisième place qui sera vraiment intéressante à suivre. Après, je vois bien un cavalier seul de Van Der Poel, et après derrière voilà se bagarrer pour les places des deuxième et troisième places. Voilà, c'est un petit peu mon ressenti, et c'est un peu dommage parce que ça après voilà, après il peut se passer plein de choses, un incident mécanique, des chutes sur un parcours difficile, voilà, même si on est au top de sa forme, quand ça veut pas le faire, ça le fait pas. Donc jusqu'à présent, il lui est rien arrivé que ça soit mécanique, alors que d'autres sont un petit peu passés à côté. Donc voilà, il faut pas se louper ce jour-là. Donc un championnat reste un championnat, c'est une course particulière, des coureurs se sont préparés et s'y préparent. Donc voilà, donc écoute, on verra bien dimanche, on aura peut-être la surprise, une surprise peut-être dimanche hein, Nicolas.
Et figure-toi Julien, on a trouvé quelqu'un qui est justement en route pour Zolden. Ah. C'est peut-être pas l'un des favoris de la course, mais c'est un des spécialistes avisés, c'est Sébastien Decoq de CX Stat et de La Bourrée Magazine. Sébastien, est-ce que tu nous entends ?
Oui, très bien, bonsoir à tous.
Bienvenue en direct dans Radio Vélo, donc sur la route de Usden Zolder, c'est ça ?
C'est ça, oui, avec une arrivée prévue demain matin pour les premiers entraînements officiels.
D'accord, et du coup, est-ce qu'il y a déjà du monde sur place ? Comment ça se passe une semaine comme ça ?
Oui, en fait, dès le mercredi, en fait, il y a des premiers entraînements proposés. Et il y a beaucoup de reconnaissance additionnelle et évidemment tout le travail habituel des commissaires.
D'accord, et du coup, ben, c'est vrai qu'on était en train de commencer à évoquer les chances de certains pour la course élite. Justement, toi qui es un spectateur avisé des manches de cyclocross, de toute la saison de cyclocross, est-ce que sur une course comme ça, on peut s'attendre à une surprise ?
Comment ? J'ai pas entendu la fin de la question.
Est-ce que sur une course comme ces mondiaux, on peut s'attendre à une surprise ? Ou c'est difficile ?
J'ai attendu de tout, ce serait une surprise s'il venait à échouer dimanche. Mais bon, ça reste un championnat du monde, et certains coureurs ont montré ces dernières semaines qu'ils pouvaient briller, comme Wout Van Aert qui a réalisé une saison assez exceptionnelle, ne l'oublions pas, et d'autres coureurs qui pourront trouver à Zolder sur un circuit rapide mais toutefois physique un terrain leur convenant.
D'accord. Et justement, peut-être, Julien, on peut demander à Sébastien son avis sur ce parcours, parce qu'il y a déjà eu quelques échos. Quel est ton avis dessus, Sébastien ?
C'est un parcours qui est quand même bien connu en cyclocross, puisque c'est une manche de Coupe du Monde depuis 2008, je crois. Donc, généralement, c'est assez rapide. Enfin, on avait eu le cas il y a deux saisons, où la victoire s'était jouée en Coupe du Monde à une quinzaine de coureurs au sprint. Après, là, j'ai vu quelques photos aujourd'hui du circuit. Certaines sections semblent un peu boueuses. On annonce de la pluie pour samedi dimanche. Donc, ça peut changer les choses. Donc à voir, il y a des portions vraiment plates, rapides, quelques nouvelles sections ont été cette année plus vallonnées et un peu de sable. Donc c'est un parcours connu et complet.
C'est vrai qu'on a vu déjà ce week-end à Augereide avec des conditions météo difficiles. On a vu d'entrée que Van der Poel est parti dès le premier tour, il s'est isolé et puis il a fait son rythme. Et ce que je disais tout à l'heure, quoi, c'est que je sens difficile le fait de qu'il passe vraiment à côté. Autant par contre pour la deuxième et troisième place, il risque d'avoir une bagarre un petit peu acharnée entre Wout Van Aert, il y a Powels, il y a quand même pas mal de coureurs qui sont en train de monter en pression et on risque sûrement de peut-être se régaler plus à ce niveau-là que pour la victoire.
Oui, bah oui, forcément. Mais après l'an dernier, Mathieu Van Der Poel avait aussi dominé la dernière manche de la Coupe du Monde, et il avait dominé les mondiaux derrière, mais on avait vu que Van Aert était peut-être plus fort que lui lors des championnats du monde. Donc après, il a eu quelques soucis physiques et techniques qui l'avaient empêché de rivaliser avec Van Der Poel dès le départ. Donc ça reste une course d'un jour. Il y a la pression supplémentaire. On sera en Belgique, donc faut pas l'oublier avec plus de 70 000 spectateurs annoncés. Donc ça va être un nouveau record et quelque chose. Les spectateurs seront forcément derrière Wout Van Aert ou Zayas qui réalise ces derniers mondiaux. Donc je ne sais pas si il y a quand même ce facteur pression supplémentaire à gérer pour Mathieu Van Der Poel, qui semble tout du moins pour l'instant bien géré.
Et justement, peut-être Sébastien, un mot sur les chances françaises, même si ce ne sont peut-être pas tes préférées. Francis Mouret, Clément Venturini, est-ce que tu as un avis sur les chances françaises?
C'est difficile à dire parce qu'ils ont tous réalisé une dernière manche plutôt délicate. Je pense que les chances françaises, il faut surtout pas.
Oui. Ouais, on a quelques petits problèmes techniques. Sébastien va devoir
le
laisser dans le train. Non, il est en chemin. Sébastien, on refait un essai. Est-ce que tu nous entends?
Non, tu l'as perdu, en tout cas.
Bon. On essaiera de le joindre à nouveau tout à l'heure à notre ami Sébastien Decoq de Cyclics Stat et également de Labouré Magazine. Sébastien qui nous fait toujours le plaisir de répondre à Radio Vélo. Mélanie, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ces propos au niveau des monos de cyclocross? C'est quand même réservé aux Belges, hein.
Ouais, ben oui, vu ce qu'il annonce, ben déjà c'est en Belgique, la terre du cyclocross, les favoris sont belges, donc ça promet une ambiance de feu et je pense que le circuit, si comme il le dit, est boueux, ça promet un circuit très technique et un beau spectacle.
Bien évidemment, le temps d'accueillir pour moi notre ami Max, hein.
Salut.
Direct à l'instant.
Pendant que Julien est en train de passer un autre coup de fil, bien sûr, les Belges et les Néerlandais, hein, parce que notre ami Mathieu Van Der Poel, cher à notre poupou national, Hollandais. Julien, on a des nouvelles, ça a l'air d'être bon.
Oui, on va enfin pouvoir voir Francis.
Oui, on va voir notre ami Francis dans quelques instants. Max, et toi, tu as reconnu le circuit championnat du monde?
Non, mais du coup, c'est bien dimanche. C'est là.
C'est dimanche. Et c'est bien à la boue, ouais. C'est comme prévu.
Enfin, on y est, quoi. On l'attend, on y est à ce championnat. C'est tard de voir que, bon, enfin, il est quand même au-dessus, hein.
Ouais.
Mais on sait jamais. Un championnat, ça reste un championnat. C'est une course d'un jour. Il peut se passer beaucoup de choses.
Bon, justement, les favoris d'après Unibet, le grand site de Paris, Mathieu Van Der Poel 1,60, Wout Van Aert 2,75 et après Lars Van Aert 8, Kevin Powels 9 et puis Jonas Vennis à 15, Francis Mouret est un petit peu plus loin. On va justement pouvoir dialoguer avec le champion de France de cyclocross qui est avec nous. Francis, est-ce que tu nous entends?
Oui, je vous entends très bien, bonsoir.
Bonsoir et bienvenue en direct dans Radio Vélo, merci de prendre quelques minutes.
Un habitué de Radio Vélo, maintenant, on le remercie.
Je suis toujours très content d'être à votre radio.
C'est tout le plaisir est pour nous, Francis. C'est vrai que la dernière fois qu'on l'avait eu au téléphone, c'était un petit peu pour lancer l'appel, hein, je crois. C'était pas l'appel du 18 juin, mais c'était l'appel de Francis. On t'avait eu au moment où il n'y avait pas encore de nouveaux contrats signés. Et en tout cas, on avait essayé de faire passer le message, de faire un gros coup d'encouragement. Et on a eu le plaisir de voir que ça s'est bien passé pour la suite. Il y a eu ce contrat avec l'équipe Fortuneo Vital Concept, et il y a eu cette reprise à cyclocross, ce titre de champion de France, ce nouveau titre de champion de France. Finalement, on s'est eu au téléphone il n'y a pas si longtemps que ça, mais il s'est passé pas mal de choses, Francis.
Ouais, c'est sûr qu'il s'est passé pas mal de choses. J'étais très heureux que l'équipe Vital Concept Fortuneo m'ait tendu la main quand la Française des Jeux n'a pas reconduit mon contrat. J'ai appelé Emmanuel Hubert et je l'en remercie de m'avoir offert ma chance.
C'est un radio
pop
rock
sport
avec des boyaux debout, avec combien de pression?
Ouais, moi, je pense qu'on va mettre aux alentours d'un 1,5 kg de pression, mais après ici ce sera pas aussi gras qu'à Besançon, même si plus, parce que c'est une terre sablonneuse, le terrain draine beaucoup l'eau et ça va être gras en surface, mais ce sera pas un bourbier.
Eh bien, on va lui souhaiter bonne chance à notre ami Francis.
On va croiser les doigts.
Ouais, bah merci beaucoup.
Merci Francis, et puis au plaisir de prendre prochainement de tes nouvelles. En
espérant le voir devant dimanche.
D'accord, merci beaucoup.
Merci.
Aussi.
Merci Francis, à bientôt.
Bonne soirée, à bientôt.
Et voilà, c'était Francis Mouret. Julien, on va pouvoir faire une petite respiration et revenir tout de suite après. On s'excuse bien évidemment pour les petits soucis techniques. C'est toujours le bonheur du direct, même si des fois on se demande pourquoi on est là, mais bon, c'est comme ça.
C'est ta radio
pop
rock
sport.
Dans ta bagnole, c'est du lundi au vendredi à 17h. Vince te propose deux titres rock à la suite. Et toi, qu'est-ce que t'écoutes dans ta bagnole ?
L'amour est une descente à vélo, un tour de France, un gros joint. Quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins. Carla retourne, Carla retourne, retourne-la. Et pourquoi pas faire le tour de la terre? Il est quelle heure au Guatemala? J'ai jamais pris de fusée horaire, toujours suivi les mêmes schémas. Carla retourne, Carla retourne, retourne-la.
De retour dans Radio Vélo, et après cette page cyclocross, eh bien nous allons aborder le débat du mercredi avec nos amis du forum de Vélo Club du Net. Oui, ben, Julien. Non, tu voulais rajouter quelque chose? Pour cela, nous accueillons notre ami Benjamin, qui ce soir n'est pas un studio, mais un duplex.
Il a fui ce soir,
duplex. Tu nous entends, Benjamin?
Eh oui, je vous entends bien. Salut tout le monde.
Bienvenue en direct. Salut. Et donc, bien oui, le petit débat hebdomadaire du forum Vélo Club du Net. Il était cette semaine autour, eh bien, de là où on aurait aimé courir ces dernières semaines, c'est ça?
C'est ça, en fait, vu que maintenant il y a le choix en début de saison, puisqu'on peut commencer sur le continent africain avec la Tropical Amissa Bongo. En Océanie avec le Tour de Nander, également en France et donc en Europe avec le Grand Prix de la Marseillaise ou encore le Trophée de Majorque. Je voulais savoir où c'est que les forumeurs auraient été allés s'ils avaient été pros, où c'est qu'ils auraient aimé aller. Donc finalement, je m'attendais à des avis assez diversifiés finalement. Mais écoute, je suis tombé sur pas mal de personnes qui pensent pareil.
Max,
tu penses comme les autres, ça m'étonnerait un peu. Moi je suis plus du côté, vraiment, si je serais pro, aller voir des choses que le Saint-Louis, des choses comme ça, que tu vraiment faut avoir une chance pour aller voir ça. Après oui, je pense que les autres, ça va être plutôt côté Australie, non?
Et en fait, non. La plupart, ils parlent du challenge de Majorque.
De Majorque, ouais.
Ouais, mais ça arrive un petit peu après, ça.
Ouais, bon, ça commence demain. Donc c'est vrai que ça commence un peu après, mais beaucoup parlent pour éviter le décalage horaire. Le challenge de Majorque, normalement, il fait assez beau, donc on garde de bonnes températures. Et ça permet d'éviter trop de voyages, d'accumuler de la fatigue dans les transports, tout ça.
Après, le problème qu'il y a, c'est que les coureurs qui vont préparer les classiques avec du temps toujours, on le sait, humide, froid, etc. Des coureurs qui sont allés faire à Saint-Louis où il a fait 35 ou 40 degrés. Il y a la fatigue, il y a ce gros coup de chaleur. Le coureur, il revient ici, il va reprendre un coup de froid. Je suis pas forcément persuadé que c'est bon pour l'organisme déjà de le mettre à contribution pour après recourir ici et sur des courses avec des températures des particulières. Alors, c'est vrai qu'après il y a certains coureurs le froid ne les dérange pas, certains aiment bien la chaleur, d'autres ont des objectifs qui sont plus lointains, donc forcément après les courses peut-être flandriennes ne les feront pas et vont axer sur autre chose. Donc voilà, il y a. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qu'on ne sait pas, et c'est vrai que je pense que Majorque reste un petit peu entre deux, entre une température trop chaude et trop froide ici, et peut permettre de parfaire sa préparation pour l'entame de la saison.
Oui. En effet.
On t'écoute, Benjamin.
Oui, je disais pour parler des coups de chaud, coups de froid. J'ai lu aujourd'hui un interview d'Emmanuel Hubert qui disait que Julien Loubet était tombé malade les trois derniers jours du Tour de Saint-Louis, donc ça illustre bien d'un sens, donc coup de chaud, et il y en a d'autres qui vont tomber malade en revenant, passer de 35 degrés à 10-15, parce qu'en ce moment dans le sud on a du beau temps, le corps il aime pas trop.
C'est sûr que c'est toute une adaptation et chaque organisme est un peu différent. Tu nous disais donc que c'était quelle course la préférée des forumers, Benjamin, pour la reprise?
C'est le challenge de Majorque, parce que en plus de permettre donc de pas aller trop loin, parce que c'est en Espagne.
Oui, mais ça n'a pas encore eu lieu, donc ça veut dire reprise pas encore à ce moment-là de l'année, hein, pas sur les courses avancées.
Oui, bon, après. Ça commence demain, donc c'est pas non plus trop en retard.
C'est pas en retard.
Mais après.
Après, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est 4 jours de course, mais qui sont 4 courses complètement indépendantes. Tu peux participer à une et pas à l'autre.
Oui.
C'est pas une course par étape où tu vas, si tu prends le départ, tu es obligé de finir toutes les étapes. Là, tu peux dire, je vais préparer, je vais faire celle-là. Le reste du temps, je vais continuer à rouler. Tu peux adapter en fonction de ton besoin, quoi.
Exactement, normalement les équipes viennent avec 16 coureurs environ, je crois que cette année il n'y a que la FDJ qui est venue qu'avec 8, donc ils ont des coureurs qui sont prévus sur des courses qui sont adaptées à leur profil, et le reste du temps ils courent pas, ils tournent autour en faisant des exercices spécifiques ou quoi, donc c'est vraiment sympa pour commencer. Après il y a également la question du parcours et du rythme, puisque le tournant under par exemple c'est du World Tour.
Ouais.
Déjà, il y a des équipes qui sont motivées pour marquer des points. Il y a une grosse course.
La différence, voilà, sur les trois courses qui ont déjà eu lieu, Tour Down Under, c'est déjà à fond style classique, style course européenne. Le Tour du Saint-Louis, c'est déjà les grosses montées avec la famille Quintana, hein, qui a fait 1 et 3 d'ailleurs dans un ordre peu habituel, mais le derrière Quintana, je crois qu'il va falloir compter avec lui maintenant. Eduardo Sepúlveda second, et puis le jeune Lopez d'Astana 4e, et donc le Tour du Gabon que tu allais aborder aussi, Benjamin.
On va dire que niveau plateau, enfin, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est quand même celui où c'était le moins élevé, quoi, niveau rythme, tout ça.
C'est assez clair.
Et ça permet également, par contre, tu vois, un coureur comme Adrien Petit, il arrive dans une nouvelle équipe.
Ça peut lui faire du bien.
Saison, ouais, il n'arrivait pas trop à gagner, là il finit avec 3 succès.
Ça peut que le mettre en confiance, là, c'est sûr.
Ouais, et puis même l'équipe, elle commence, c'est sa première course. Déjà, ils savent qu'ils seront pas Fanny. Oui, pour débuter, c'est le top, je trouve.
Où irait le Team Payname l'an prochain quand ils auront la wildcard? Du coup, ils iront au Gabon, autour du San Luis en Argentine, ou autour d'Onender en Australie?
Non, plutôt Australie.
Australie, c'est ouais. Et parce que j'ai l'impression quand même ces derniers temps que le Tour du Saint-Louis est en train de grappiller sévère sur le Tour de Dornander en Australie.
Ça dépend quelle mentalité on a en tant que coureur. Moi, c'est vrai que je serais tendance à les découvrir. Il y en a qui vont penser à leur santé, à bien préparer les objectifs qu'ils ont. Donc, c'est compréhensible d'aller là où c'est le plus proche, et des courses où on peut choisir comme chez les amateurs, où on a une semaine de course, on choisit. Maintenant, ça dépend ce qu'on recherche en tant que coureur et après ce que demande aussi l'équipe. Quoi.
Voilà, parce que c'est vrai que il y a même pas une moitié de coureurs qui participent à ces trois courses réunies. Là, il y a la reprise de la saison ce week-end en France à la Marseillaise. Hein. Souvent, il fait froid là-bas. Bah, cette année, ça devrait aller, mais il y a eu des années où il faisait très froid. C'était très dur comme course de reprise. D'ailleurs, des vainqueurs souvent assez difficiles à pronostiquer. Est-ce que
c'est le début de saison, donc c'est vrai que c'est un petit peu la remise en route des coureurs qui sont plus près que d'autres. Voilà, c'est un petit peu la découverte, quoi.
Benjamin, cette formule française, est-ce qu'elle est dépassée, cette formule reprise française?
Non, je crois pas. Et puis ça reste une course qu'on appelle historique, le Grand Prix de la Marseillaise. Et puis avec les nouvelles courses qui se sont créées, le retour du Tour méditerranéen sous l'appellation la Méditerranéenne, rester dans le coin et pouvoir disputer plusieurs courses avec des terrains assez escarpés, mais également avec pas mal d'arrivées au sprint. Donc je pense que c'est une bonne formule. Et je remarque également cette année que de plus en plus, hormis pour le Tour de Saint-Louis, il y a des courses qui se... Et le Herald Sun Tour, il y a Froome d'ailleurs qui reprend là-bas. Et également, on n'en a pas parlé de ce Froome parce que c'est un peu plus tard, mais il va y avoir le Dubai Tour, le Tour du Qatar, le Tour d'Oman. Donc de plus en plus, à différents endroits de la planète, il y a tout un tas de courses qui se greffent à d'autres.
Ben, c'est sûr que sur des distances comme ça assez longues, à faire venir les coureurs, s'ils peuvent les garder un peu plus longtemps, donc ils vont s'organiser un petit peu en fonction. Voilà, après, bon... je pense qu'on a des belles courses ici en France. Le début de saison est quand même assez intéressant, comme tu disais, avec un profil. En plus, ça va partir de Gironde, si je ne me trompe pas. On va traverser la frontière et puis ouais, on devrait avoir de belles arrivées.
Max ?
Oui, mais après, ce qu'il ne faut pas oublier et bien préciser, c'est que le début de saison, c'est ce qu'on appelle même pas un début de saison de course. Moi, j'appellerais ça, c'est encore de la préparation, c'est encore du stage. Et 80% des coureurs dans le peloton ne sont pas encore prêts. Il y en a très peu qui sont prêts et qui vont jouer la victoire. Et quand on démarre à la Marseillaise, là, oui, on commence à avoir vraiment de la course. Mais ceux qui, souvent, qui font des sacrées performances à ce moment-là, c'est des néo-pros, on va dire. Parce qu'eux, ils sont à bloc, ils sont ultra motivés, ils viennent d'arriver chez les pros. Et les grosses vedettes ne sont pas encore prêts. Donc, qu'ils aillent en Australie ou Mallorca ou autre part, ils sont encore en pleine préparation.
Ouais, c'est ce que je disais. Après, c'est que c'est d'abord, ça se fait en fonction des objectifs de chacun. L'objectif d'aller gagner une Flandrienne, il sera pas prêt pour l'instant sur des courses comme ça. Ça se fait, voilà, ça va se faire surtout en fonction. Je pense que des courses comme ça se font surtout dans le moment, quoi. Dans le moment, voilà, on prend la bonne échappée, on a la chance d'être devant. Si on est un petit peu bien, ben voilà, on va la claquer. Mais sans peut-être forcément, je ne pense pas que les coureurs disent voilà, je mets comme objectif d'aller marcher sur cette course-là. C'est des courses préparatoires, comme il y en a d'autres. Et voilà, après, le résultat vient en fonction du déroulement de la course.
Il n'y a plus de formule type, Benjamin, d'une année sur l'autre, ça change en plus. Hein. Les coureurs changent de formule.
Oui, à deux exceptions près. Notamment pour le Down Under, là j'ai la page devant les yeux des résultats.
Bon, et Simon Guérin, ça fait 15 ans que je ne change pas de formule, certes, mais bon.
Il est à la maison.
Et oui, c'est ça, à la maison, il y a eu 6 étapes, 6 victoires australiennes. Et pareil au San Luis, on compte 2 victoires colombiennes, 2 victoires argentines. Donc les coureurs qui sont à domicile écrasent les coureurs qui viennent plus en termes de préparation. On a revu également au Tour d'en Under une nouvelle attaque de Richie Porte comme l'an dernier. Gerrans, bon, on le sait, quand il marche bien sur le Down Under, il avoine. Et la révélation, la confirmation, Caleb Ewan. Ouais. Donc c'est des coureurs qui sont à domicile.
Le missile.
Le décalage horaire. Pardon ?
Je disais le missile, quand on voit son sprint de profil, on dirait missile propulsé.
Et voilà quoi.
ça a plu à Benjamin, ton anecdote. Non, mais c'est vrai que Caleb Ewan et Fernando Gavira, là, celui qui gagne sur le San Luis, je les mettrais bien, moi, sur un hippodrome côte à côte, là, hop, là, le premier qui arrive au bout d'un tour. Là, je crois qu'il y a de quoi parier, là, c'est sympa. Oui, Benjamin, tu voulais rajouter quelque chose ?
Non, mais juste certains rumeurs qui avaient parlé, un peu comme Max, à un moment, Max disait qu'il voulait découvrir cette simple aventure, plus pour le tour du Gabon, donc la Tropicale Amissa Bongo, découvrir d'autres paysages, une autre culture, et profiter d'un rythme de course un peu moindre pour vraiment profiter. Quoi.
Après, c'est pas les vacances non plus, hein. C'est pour voir autre chose, un peu le public, tout ça là-bas, voir un peu comment c'est, comme en France quand tu vas courir dans le nord et que tu viens du sud. L'idée, elle est un peu là. Bon, je pense pas non plus que ce soit les super vacances là-bas.
Mais quand tu viens du nord et que tu cours dans le sud, tu remontes dans le nord, toi, ça, ouais, c'est ça. Bon, on a été complet, ouais, sur ce petit débat, c'est toujours sympa parce qu'il y a pas vraiment d'avis tranché, c'est plus les goûts et les couleurs, j'ai l'impression, ce début de saison pour les personnes qui auront envie de découvrir. Mais c'est vrai que les premières fois où certains coureurs professionnels, après parfois beaucoup d'années de carrière, ont eu l'occasion d'aller découvrir notamment le Tour du Saint-Louis, je pense à Jean-Christophe Perrault il y a 3-4 ans, même Sylvain Georges, je me souviens avoir eu le plaisir d'échanger avec lui sur ce sujet à l'époque où il venait de passer pro, il avait été faire l'épreuve argentine, il avait raconté ça à nos amis de Vélo Chrono et c'était autant passionnant que d'être sur le vélo, ce qu'il avait vécu là-bas, de voir les à côté, de voir le public, le voyage, de découvrir un pays aussi, parce que finalement quand on fait du vélo, on a de plus en plus l'occasion de découvrir des pays avec cette mondialisation du cyclisme.
Après, c'est vrai qu'on avait la chance qu'il soit retransmis sur le réseau Internet. Bon, voilà, c'est une course qui a besoin de grandir, le Tour de Saint-Louis. On voit certaines années arriver qui sont quand même, je veux dire, un peu limites, avec des zones de où on voit les directeurs sportifs qui sont stockés juste avant l'arrivée et les coureurs qui arrivent, qui viennent de gravir pendant un bon moment et puis ça descend un petit peu vers l'arrivée. Ouais, il y a des choses qui sont vraiment un peu limites, mais je pense qu'ils s'amélioreront. Mais voilà, il y a certaines choses qui m'ont fait un petit peu rigoler parce que, enfin, rigoler, mais voilà, c'est dangereux, quoi. C'est dangereux et faut faire attention. Il y a eu une étude, la sacrée chute d'Adrien Malory aussi.
Bon. À qui on souhaite un bon rétablissement. Et puis dans la semaine Kata, on a une passée également pour l'équipe Giant, hein, avec aussi, cette sortie d'entraînement qui aurait pu être dramatique. Oui, Benjamin.
Non, je disais que ça a été terrible, le Giant, Degen Cole qui a failli perdre un doigt, des fractures multiples pour plusieurs coureurs. Vraiment, c'est une conductrice anglaise qui se croyait encore.
Les Anglais, de toute façon, bon. En tout cas, voilà, soyez prudents et surtout ayez de la chance parce que, bah oui, des fois on n'y peut rien. Bien évidemment. Benjamin, on a été complet sur ce petit débat, on te laisse à vaquer à tes occupations.
Oui, bah écoute, je pense qu'on a été complet. Juste porter le casque parce qu'on voit de plus en plus que être cycliste, c'est une passion dangereuse. Et voilà.
Bon, et bon, on va se quitter avec ces mots très sages d'appel à la raison. Benjamin, à très bientôt en studio.
Ouais, ben à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, ça marche. Et déjà nous préparer le petit débat. Vu qu'il y aura déjà eu la Marseillaise, il va nous faire le débat. Est-ce que celui qui a gagné la Marseillaise peut gagner Milan-San Remo ? Il va pas s'arrêter là, Benjamin. Salut, à très vite.
Ciao, ciao.
Ciao tout le monde, bonne soirée.
Ciao, bonne soirée. Et le Radio Vélo continue avec la deuxième mi-temps. Et nous allons dans quelques instants présenter une équipe chère à Max, que tu connais
Merci.
Bien. Tu as connu à peu près toutes les milliers de structures qu'il y a à Midi-Pyrénées. Rigole cette semaine, parce que la semaine prochaine, on a une autre équipe à présenter.
Schmad.
T'auras piscine, oui. Ou aquaponé. Et donc, nous allons justement passer du côté de cette nouvelle équipe, pas cette nouvelle équipe, mais présenter une nouvelle équipe régionale, parce qu'on finit avec les équipes de Midi-Pyrénées avant d'attaquer tous les autres. Ils écoutent ça à Montauban.
Si on l'a écouté un jour, on devait être vraiment entre nous, quoi. Parce que c'est rare déjà d'avoir la voiture pour aller chercher tout seul sans le patron de.
Et justement, de Montauban, le grand patron Max Garcia, on va l'avoir dans quelques instants pour présenter bien ce Montauban cyclisme.
Peut-être un peu.
On a déjà présenté le GSC Blagnac Vélosport 31 il y a deux semaines. On a présenté l'Occitane Cyclisme Formation également, l'US Montauban Cyclisme et après le Team Paynim. Ce sont les équipes régionales de haut niveau en Midi-Pyrénées.
Oui, les équipes de haut niveau où les coureurs, après ces équipes-là, sont susceptibles de passer à l'échelon supérieur ou de passer à des équipes un peu plus grosses, l'équipe de DN1. Voilà, donc ça fait partie de ce triptyque qu'on avait avant, hein, puisqu'il y avait maintenant se rajoute le Team Paynim, donc une concurrence complémentaire, donc on aura quatre équipes qui vont se bagarrer un petit peu, où on pourra pouvoir aller voir à l'œuvre déjà bientôt au Grand Prix de Montastruc. Ouais. Voilà, ça fait partie des équipes qui sont là depuis un certain moment, avec l'inusable Max Carcy, qui est le président de cette formation-là. Voilà, donc un club qui est passé, qui a gagné la Coupe de France Division 1 il y a un certain temps. Hein, c'est à l'époque c'était un bon moment. Donc voilà, il y a du potentiel. Et donc voilà, mais si Marc Carcy n'est pas très très loin.
Voilà, ouais, non, mais Julien, c'était intéressant ce que tu as commencé à aborder. C'était un des clubs historiques.
C'est un club historique. Il y a beaucoup de grands coureurs sont passés par là. Olivier Asmacher est passé par là, qui était passé dans les rangs professionnels. J'en oublie sûrement et certainement.
Et tout récemment, il a quand même fait des bons coups avec des Loubet, des Perger, Skolnik, un petit moment.
Oui, parce que c'est lui qui a récupéré Julien Loubet avant les autres. Hein,
non, non, il a d'abord fait Blagnac, après il est allé à Montauban, il est revenu à Blagnac et après il est repassé chez les pros. Donc il a quand même fait un an à Montauban où on avait une sacrée team. Hein, c'est avec un Loubet, Perger, Skolnik. Nous, on avait de quoi rouler pour des leaders. Et là, c'était quand même, on a fait une saison, eux ont fait une saison assez intéressante, même si je pense qu'à ce moment-là, Bellou, il forçait pas trop, en fait. Il s'est vraiment remis sur le vélo la troisième année à Blagnac. Donc c'était, après, Perger derrière n'a pas pu suivre, ou n'a pas, peut-être que Carcy ne lui a pas donné les mêmes pour s'investir dans le club, mais il est toujours là-bas, il est dans le coin. Hein,
donc, alors, l'effectif 2016, Damien et Sébastien Capu, Casteran, Koumé, Kron, De Carvalho, Hamel, Hervoir, Kwiatkowski. Le champion du monde, là, d'il y a deux ans. Non, de la famille.
Non, mais il y a
de la famille. Lorenzi, Mathieu, Kakeber, Renault et Roumaniac. Voilà l'effectif 2016. Pas mal de jeunes.
Pas mal de jeunes. Et du coup, il reste Casteran et Kwiatkowski de l'an dernier, je pense. Ça, après, tout a été renouvelé. Peut-être Hamel aussi, oui. Coureurs de 2004. 2015.
Oui, c'est vrai qu'un effectif pas mal renouvelé. Pour en parler justement, eh bien le président historique de l'US Montauban 82, Max Carcy. Est-ce que vous nous entendez, Max?
Oui, bonsoir, très bien.
Bonsoir et bienvenue en direct dans Radio Vélo et merci de prendre quelques minutes pour notre tour régional qui s'arrête cette semaine et bien du côté de Montauban. On disait un effectif assez renouvelé, hein, c'est comme ça que vous diriez?
Oui, tout à fait. Nous avons quand même gardé Kwiatkowski, Hamel, après Stéphane Mathieu quand même, qui a été un bon coureur dans l'équipe l'an dernier. Et après, Casteran, c'est à peu près tout, oui. Et on a renouvelé. Mais c'est... Allô?
Oui, on vous écoute. Oui, Max.
Je dois avouer que ça devient une mode maintenant.
De renouveler l'effectif?
Le coureur qui ne mute pas, il passe pour un couillon auprès des autres.
Vous le voyez comme ça, c'est vrai qu'avant
je le vois comme ça, oui.
Avant, les coureurs restaient longtemps dans les structures et maintenant vous trouvez que ça change un petit peu tous les ans, un peu comme au foot.
Oui, c'est vrai. Je sais pas moi si je prends référence il y a de nombreuses années, je sais pas, des Génères, Asmacher, Estadieux, Boucharoff, tout ça, mais ils étaient fidèles. Quand ils passaient pro et ils revenaient de chez les pros, ils revenaient chez nous. Alors que maintenant, bon, c'est pas, ça n'est plus à la mode, mais ça fait dépenser davantage d'argent et c'est la fédération qui en a les bonbons, je dirais.
Et justement, pour parler de fidélité, on a dans notre équipe à Radio Vélo quelqu'un que vous connaissez bien, Julien Almansa. Julien, justement, les propos de Max sont intéressants.
Oui, c'est intéressant. Je pense qu'on est malheureusement dans une société de consommation. On vient, on prend ce qu'on a besoin et on s'en va, malheureusement. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, quand on signait dans un club, dans une équipe, quelque part, on s'engageait. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est du consommable. On fait une saison, hop, on s'en va, on va ailleurs. Avant, c'était différent. Moi, j'ai fait deux grands clubs. J'ai fait le GC Blagnac, que je suis resté 5 ou 6 ans. J'ai fini à Montauban, puis après, j'ai arrêté le haut niveau. Mais je suis resté, quelques années. Aujourd'hui, comme il dit, c'est un an, et puis les coureurs s'en vont. Alors bon, c'est malheureusement, c'est comme ça. C'est ce qui est dommageable, c'est qu'on ne puisse pas se projeter dans la durée. Un coureur qui reste qu'un an, après, c'est difficile de monter une équipe. Aujourd'hui, des fois, une équipe pour la structurer, il faut voir à long terme, et aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Hein, Max?
Oui, tout à fait, Julien. Oui, c'est exactement tu relates bien la réalité des choses. On ne sait pas pourquoi. Mais maintenant, c'est vrai, le coureur qui ne mute pas, maintenant, ben, il passe pour le, bon, ben, pour le, demeurer, quoi. Et c'est dommageable parce qu'on ne peut pas travailler sur du long terme, comme tu disais Sylvain tout à l'heure. Mais bon, il faut s'adapter.
Et justement, l'adaptation, avant de parler un petit peu de vos attentes pour cette nouvelle saison, une autre question sur la modernité justement et les nouveaux, les nouvelles façons d'amener les coureurs au plus haut niveau. Il y a certaines équipes, vous avez vraiment un club assez traditionnel, hein, l'US Montauban, ça fait partie des clubs historiques, mais maintenant il y a aussi des structures qui se créent pour regrouper les clubs. Je voulais avoir un petit peu votre avis cette nouvelle façon d'aller se frotter au plus haut niveau français, Max.
Regrouper les clubs pour avoir les meilleurs coureurs dans les meilleurs clubs.
Oui, un petit peu comme fait l'Occitane Cycliste Formation ou le Team Payname qui regroupe du coup plusieurs clubs pour les amener sur les plus grandes courses, vous voyez.
Oui, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais pratiqué cette façon de travailler avec les sportifs cyclistes, donc je ne suis pas, enfin je ne peux pas, je ne connais pas. D'abord je ne connais pas. Après ça n'est pas mon principe. Moi un club c'est quelque chose de structuré sur place, ça a un nom, ça et après on travaille avec dans les meilleures conditions possibles. Je ne connais pas l'autre façon de travailler, donc.
D'accord. Vous semblez en tout cas apprécier la façon qui a fait ses preuves depuis longtemps du côté de votre club. Cette année en 2016, est-ce que vous êtes fixé des objectifs ou vous attendez un peu les premières courses de voir comment se comportent les coureurs?
Disons que nous regroupons déjà nos coureurs samedi et dimanche là à Montauban. Après, nous partons en stage à l'Essor Basque, et participer en même temps aux épreuves de l'Essor Basque. On a la valeur des coureurs à peu près, on voit à peu près ce qu'on va faire avec. On a un calendrier qui est assez fidèle d'une année sur l'autre. Vous savez, moi il y a des dirigeants aussi comme moi que je connais depuis 20 ans ou 30 ans et ils nous font appel tous les ans et c'est avec plaisir qu'on leur fait plaisir. Donc le calendrier c'est toujours à peu près le même. On fait une dizaine de courses par étape. Là-dessus il y a six manches de la Coupe de France. Et puis après des courses que nous avons l'habitude de faire aussi, des classiques. Je dirais que dans la région d'Orléans et autres, il y a encore pas mal de courses et ça nous meuble bien le calendrier.
Au niveau des organisations, j'ai entendu que tu remettais en route le championnat Midi-Pyrénées cette année.
Oui, pour la cinquième année consécutive. Et je me ferai un devoir de ne pas continuer parce qu'il faut bien laisser la place aux autres aussi, aux autres organisateurs. Donc, je pense, oui, ça sera la cinquième année et je souhaite que l'année prochaine nous ne le réorganisions pas. Par contre, je cherche le pendant. En épreuve intéressante, je dirais, pour des coureurs de bon niveau. Alors, ça pourrait être le Tour de Tarn-et-Garonne sur deux étapes, si je trouve preneur pour les étapes, ou si nous trouvons preneur pour les étapes. C'est le projet prochain.
Tour du Tarn-et-Garonne qui se faisait déjà auparavant. Déjà, il s'est fait combien d'années ce Tour du Tarn-et-Garonne?
28 ans. Il y a eu 28 éditions. Il y a eu des éditions sur une journée. Il y a eu une édition en 92. Nous avions pu faire cette étape avec le avec l'apport de la banane de Guadeloupe, nous avions développé cette année-là le produit de la Guadeloupe. Et enfin, ça ne fut pas que des succès, mais enfin, le tour se déroula dans de bonnes conditions. Et puis voilà.
Mais justement, depuis combien de temps, du coup, ça fait que vous êtes dirigeant de l'US Montauban, Max?
J'y suis rentré en 1981.
D'accord.
J'avais fait 5 ans avec mon président, M. Dumont, à la SPTT Montauban. Lui quittait le département et c'était le directeur départemental de la Poste. Moi, j'étais cadre à la Poste. Et donc, bon, lui partant, je n'avais plus envie de rester avec les dirigeants qui allaient reprendre la SPTT. Et bien m'en a valu, puisque un an et demi après, la SPTT disparaissait. Donc voilà.
Et qu'est-ce qui vous fait encore courir, alors? Qu'est-ce qui vous fait encore courir?
Qu'est-ce qui me fait courir? Pour le plaisir.
Le plaisir de toujours voir et bien des nouveaux jeunes. Mais qu'est-ce qu'on vous souhaite alors pour cette saison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'il faut suivre en particulier dans cette équipe de l'US Montauban?
Je fais confiance et je compte sur Grigor Krakowski encore qui commence à vieillir, mais enfin qui est là. Kevin Hamel, qui l'an dernier a bien marché, donc j'espère qu'il va marcher encore cette année. Damien Capu aussi, c'est un jeune qui m'inspire confiance.
Qui vous rejoint cette année. Damien Capu qui vous rejoint cette année.
Oui, il y a son frère aussi qui vient, mais son frère, bon, il n'a pas couru l'an dernier, et on verra. Parce qu'il y a aussi, il y a des coureurs qui sont là, qui ont la capacité, puis qui ont le désir de faire de la compétition de haut niveau. Il y a d'autres coureurs qui sont là pour faire du vélo pour leur plaisir. Mais enfin, après, Stéphane Mathieu nous a donné satisfaction l'an dernier aussi, il n'y a pas de problème. Après, des jeunes comme De Carvalho, Renaud, c'est des jeunes que j'apprends à connaître. Et puis après Bertrand Comé, qui me paraît aussi de très bon niveau, et Olivier Cron, ce sont les 8 coureurs que nous avons de première catégorie. Après, quant aux autres, bon, Christophe Robin, le frère Capu, Castéran, Cordier qui va faire quelques courses tout en étant dans l'encadrement. Hein. Et après, Kajeber, lui, je ne le connais pas beaucoup, mais bon. Il y a déjà 8 coureurs qui seront là pour faire la course et essayer d'avoir du résultat. Et puis après, il y a 4-5 coureurs qui sont là pour apprendre et puis pour grimper gravir des échelons.
Bon, mais on va suivre ça avec attention, oui. Du côté de Radio Vélo, comme avec toutes les équipes régionales. Merci d'être passé dans Radio Vélo, Max Carcy.
Ben, merci beaucoup à vous et à bientôt sur les compétitions.
Et bien, avec plaisir, à très bientôt, Max Carcy. Ouais. Et merci. Ouais. Bonne soirée.
Merci, avec plaisir. Au revoir.
Merci. C'était donc le président de l'US Montauban Cycliste, Max Carcy, qui était en direct dans Radio Vélo, un personnage du cyclisme Midi-Pyrénées. Mais on voit que, il court toujours. C'est toujours la passion qui l'anime. Les jeunes, il suffisait de le brancher dessus. Il nous a fait le CV. Toujours aussi minutieux.
Oui, bon, après, voilà, c'est un des dirigeants, comme il y a d'autres clubs, un passionné. Et voilà, après, c'est vrai, comme il dit, ce qui est un petit peu difficile, c'est d'arriver à se projeter dans l'avenir, quoi, quand on fait une équipe. Alors, c'est moins le cas sur des jeunes, puisque des jeunes, quand ils montent du junior espoir. Mais après, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements qui se passent. Et est-ce que la solution des équipes sous-entente, c'est pas une solution pour garder les coureurs dans leur club et essayer de se projeter un peu sur
l'avenir? C'est un changement difficilement envisageable pour lui, parce que vraiment, ça serait tout repartir à zéro.
Oui, après, c'est vrai que...
Ça serait dur pour lui, pour quelqu'un comme lui, de se fondre là-dedans.
Aujourd'hui, lui, il a la possibilité de garder ses coureurs, d'avoir un certain budget pour amener les coureurs, les avoir, les amener disputer des courses assez importantes. Et les déplacer.
Il n'y en a plus beaucoup, finalement, des clubs comme ça par chez nous.
Et ça devient compliqué, oui. C'est pour ça que d'ailleurs les ententes se créent, pour justement profiter, enfin pas pour profiter, mais que les coureurs restent dans leur club respectif et tout en pouvant participer à des épreuves importantes.
Et pendant qu'on a interviewé Max Carcy, notre Max n'a pas été très sage, donc la semaine prochaine, attention à lui. Non, ta réaction, toi, à l'interview de Max Carcy?
Réaction à l'interview, rien, c'est juste par rapport aux ententes, il y a un vrai sujet là-dessus, parce qu'il y a les ententes qui se font pour les coureurs, et les ententes comme moi par exemple à la base, j'avais pas besoin d'entente, je pouvais me débrouiller tout seul, et je l'ai faite parce que je pensais qu'en faisant ça, en fait, j'allais piquer les coureurs des clubs, des petits clubs, on va dire, entre guillemets, et du fait qu'ils allaient se retrouver sans pouvoir garder leurs coureurs. Alors moi je l'ai fait dans le sens que c'était pour eux les tirer vers le haut, qu'ils puissent garder leurs coureurs et qu'ils puissent s'exprimer au niveau national. Ça dépend, il y a vraiment deux formes d'entente, quoi. Donc après, ça dépend comment on voit les choses, mais c'est important aussi de garder des clubs comme ça, comme Montauban, qui gardent une identité. Il faut de tout dans le cyclisme et dans le monde. Donc non, c'est très bien aussi comme ça. Et chaque année,
chaque année,
ils renouvellent l'effectif, mais ils retrouvent aussi des coureurs chaque année. Bon, après, ça reste pas. Moi, c'est un de mes gros objectifs pour l'an prochain aussi, c'est de pouvoir garder les coureurs que j'ai à Sablé. Si j'avais pas eu ce projet, je serais resté. J'allais enchaîner sur ma troisième année, alors que j'ai toujours fait un an partout. Donc voilà, il faut que le coureur, si ça bouge beaucoup en ce moment, c'est que aussi peut-être quand on fait beaucoup de promesses qui ne sont pas tenues pendant la saison, et du coup le coureur change et veut voir autre chose. C'est vrai qu'à l'époque, ça restait vraiment longtemps dans les clubs, quoi.
Ça bouge beaucoup les dernières minutes de Radio Vélo. Est-ce que autour de la table, des petites infos, des petits échos?
Des infos de nos amis de Jack Vélo qui nous donnent des infos de cette fameuse ronde de l'Isard 2016. Avec les premières étapes avec arrivée au sommet, arrivée le premier jour à Gouliers-Neige, le deuxième jour arrivée à Axe Trois Domaines, ça va pas être piqué des verres. La troisième étape qui se terminera à Boulogne-sur-Gesse et la dernière étape qui va un petit peu changer un petit peu de physionomie, où elle sera un peu plus longue avec 159 km entre Éon et Saint-Girons. Et avant, on avait 4 cols à gravir. Là, cette année, il n'y aura que 2. Il y aura le Porté d'Aspé, qui n'est quand même pas rien. Et le fameux col de la Corde, dans le même sens qu'emprunter le tour cette année. On devrait avoir une course qui sera pas trop trop mal.
Du 19 au 22 mai, et le vainqueur sortant, on le voit faire ses premiers stages avec l'équipe World Tour. Team Lampré Mérida, c'est Simone Pétilly, donc c'est vrai qu'on va le suivre de très près, un petit peu comme les autres qui avaient brillé, notamment Lorenz De Plus, qui avait fait de superbes choses. J'ai vu aussi chez nos amis d'Yari Vélo, c'est notre ami Jean, bien évidemment, qui nous aide à préparer l'émission, qui nous a envoyé ça, que certaines régions vont déjà faire le championnat régional en commun.
C'est pas gagné chez nous, mais...
C'est pas partout comme ça, mais en Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, ça sera ensemble. Donc c'est vrai qu'il y a tout un travail d'ici 2017. 2017, c'est pas que les élections présidentielles. D'autres infos autour de la table, d'autres échos, Max?
Nouvelle réglementation concernant le fameux passage à niveau. Vous vous souvenez que l'an dernier, il y a eu des sacrés soucis avec ces fameux passages à niveau.
Clarifions ça.
Aujourd'hui, la règle, elle est simple.
Déjà, est-ce que les trains partent à l'heure?
Est-ce que les trains
partent à l'heure? On ne peut pas le dire.
La règle dit que, lorsqu'on est échappé, si on a moins de 30 secondes qu'on est bloqué au passage à niveau, on repart avec le peloton. Voilà, c'est perdu. Bon. Si on passe avec 30 secondes ou plus, qu'on est arrêté, on repart avec le même écart qu'il y a. Donc ça, c'est la règle officielle. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on va dire qu'un groupe d'une trentaine de coureurs passe au passage à niveau, la barrière se ferme. Donc dès que le signal est en route et la barrière descend, on doit s'arrêter directement. C'est obligatoire, c'est une nouvelle réglementation.
Chose qui n'est pas toujours respectée.
Voilà. Si le groupe de tête se scinde en deux, en fait... Ce groupe-là va se reformer à l'issue de l'ouverture de la barrière. D'accord. C'est-à-dire que le groupe qui est passé va s'arrêter, va attendre le deuxième groupe qui était arrêté et va pouvoir se reformer. D'accord. Chose qui n'était pas le cas avant. Voilà. D'accord. C'est une nouvelle réglementation qui sont sorties suite aux incidents qu'il y a eu l'an dernier.
Qui sont toujours très compliquées à appliquer.
Voilà, avec mise hors course immédiate, si un coureur, je le rappelle, si le coureur passe alors que les voyants sont allumés, les barrières commencent à descendre, le coureur franchit le passage à niveau, c'est mise en course immédiate. Avec après sanction, pénalité ou amende de la SNCF, ça c'est dans le débat. Mais côté UCI, voilà la règle qui est sortie récemment par rapport à ces fameux passages à niveau où c'est toujours un petit peu compliqué.
D'autres réactions autour de la table? Non, le passage à niveau, Max, est-ce que tu te souviens?
On a connu ça.
Des courses, ça arrive forcément.
Peut-être à cause de ça aussi que, voilà. Ça a été supprimé, les courses, à chaque fois, dès qu'il y a quelque chose comme ça, la course est supprimée l'année qui suit. Donc à un moment donné, il faut mettre les points sur les i, il faut mettre à jour le règlement. Donc c'est bon, malheureusement, ça met beaucoup d'années à se mettre en place. Mais j'ai même vu là, au niveau des conditions climatiques aussi, s'il y a du verglas, s'il neige, s'il je sais pas quoi.
Qu'on va dire aujourd'hui, les assurances aujourd'hui, c'est elles qui payent. Et aujourd'hui, les assurances, on voit qu'elles prennent pas un parapluie, mais une tente ou une tonnelle de 20 mètres par 20 mètres. Donc aujourd'hui, ils vont mettre des clauses. Et aujourd'hui, ça se répercute sur
les anciens qui vont râler, je pense, qui vont dire attends, nous à l'époque, on roulait, on ne ferait pas.
C'était mieux avant, hein, ça se dit souvent.
Ah, c'était
ça.
Différent. Ouais.
Merci Max, merci Mélanie, merci Julien pour cette émission.
On se retrouve la semaine prochaine.
On se retrouve la semaine prochaine.
Avec un peu plus de monde.
Avec la présentation de la dernière équipe régionale que nous n'avons pas encore présentée, le Team Payname.
Est-ce qu'il y aura du scoop?
Est-ce qu'il y aura du scoop? Qui seront les invités? Suspense, c'est Mélanie qui planifie tout ça au niveau des invités régionaux.
Le champion du monde ce week-end.
Oui.
Devant vos écrans.
Voilà, ça sera.
On va se régaler.
Et il y a aussi le championnat d'hiver de l'américaine à Bordeaux, dimanche 7 février. Donc du coup, non, j'annonce un peu trop tôt, c'est pas dimanche.
C'est pas grave, on peut le noter dans l'agenda.
Mais je commence à lancer la couleur.
Championnat d'hiver de piste à Bordeaux qui se déroule
et le Grand Prix de la Marseillaise également, première manche de la Coupe de France. Montastruc, un mois, un jour, Max. Attention. Un mois et un jour.
Demain, un petit poste.
Un petit poste.
Bonne soirée à tout le monde.
Ciao et bonne soirée à tout le monde.
Et le TF.